If you hold a stone, hold it in your hand. If you feel the way.
Bonjour, je m'appelle Catherine Hoog et je suis commissaire d'expo au Kunsthaus de Zurich. Ce podcast a été publié dans le cadre de la rétrospective Gia Clark au Kunsthaus, visible du 14 novembre 2025 au 8 mars 2026. Le show a été réalisé en coopération avec la Neue Nationalgalerie Berlin et est la première exposition complète de l'artiste brésilienne dans l'espace germanophone. En tant que représentant du néoconcrétisme, Clark a d'abord élargi l'image dans l'espace, puis la sculpture a pris une référence corporelle de plus en plus forte, jusqu'à ce que l'œuvre d'art physique comme pièce unique soit finalement abandonnée dans les années 1970. Les objets et installations de Clark permettent à l'audience de participer activement à leur création aussi bien que médiation et interprétation. L'artiste même disait à ce sujet « Pour moi, créer de l'art, c'est se développer en tant qu'être humain, ce qui est la chose la plus importante. L'art ne devrait pas imiter un nom ou concept quelconque. » Fin de citation. Dans ce podcast, en plusieurs parties, des contemporains et spécialistes tels que Alexandra Clark, Yvan Limbois ou Iron Small mettent en lumière la grande actualité de l'œuvre de Clark. Bonne écoute.
Fils et auditeurs, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Swami Rodney, qui est philosophe, écrivaine, psychanalyste, commissaire d'exposition, critique d'art et de culture et professeur d'université. Persécutée et emprisonnée par le régime militaire du Brésil, elle a vécu en exil en France entre 1970 et 79. À son retour au Brésil, elle est devenue professeure à l'Université Pontificia Universidade Católica de São Paulo, où elle enseigne encore aujourd'hui et va nous raconter plus en détail de quoi il s'agit. Elle a été invitée par Corinne Dizerens de faire une exposition sur Ligia Clark au Musée des Beaux-Arts de Nantes en 2005, qu'elle a intitulée « De l'œuvre à l'événement ». Nous sommes le moule, à vous de donner le souffle. Cette légendaire exposition figure parmi les plus importantes à nos jours en ce qui concerne la mise en avant des œuvres éphémères et thérapeutiques de Clark, et on va en parler plus en détail pendant notre entretien. Donc, je voulais commencer avec la question suivante. Tu étais, comme on a entendu, tu étais à Paris en depuis 1970 et tu as fréquenté les cours de sociologues comme Foucault, Deleuze-Guattari. Mais comment ton chemin s'est croisé avec Ligia Clark dans ce contexte?
Bon, merci beaucoup pour cet entretien. Je commencerai pour dire que dans cette université, lorsque je suis revenue de France, j'ai fondé ensemble, dans un doctorat et une maîtrise de psychologie clinique qui commençait à ce moment-là, j'ai fondé un centre pour étudier la subjectivité en tenant compte de la puissance micropolitique du travail clinique, c'est-à-dire du travail avec la subjectivité. Bon, j'ai dit ça parce que ça a à voir avec mon rencontre avec Ligia Clark et la France et tout ça. Et en France, quand je suis arrivée, j'ai connu Ligia Clark juste au début. J'ai aussi fréquenté, comme vous avez dit, les cours du philosophe Deleuze, Foucault, etc. Et je me suis aussi approchée du psychanalyste et philosophe Guattari. Dans ces études, j'ai retrouvé, et aussi bien avec ce qui se passait dans la France après 68, j'ai trouvé ce que je cherchais ici, ce que je faisais ici au Brésil, et c'était la raison de ma prison, c'était de développer, d'élaborer la dimension clinique du mode d'existence. Parce qu'un système n'est pas une abstraction, il s'incarne dans un mode d'existence. J'ai trouvé beaucoup de résonance pour cette recherche à Paris. Et c'est là que je connais Ligia, non? C'est là que je connais Ligia, qui a été une rencontre aussi très importante, on est devenus très amis, parce que non seulement Ligia était pour moi une espèce de modèle de féminisme sans se déclarer féministe, c'est-à-dire de transformation de la subjectivité féminine. J'avais 20 ans, c'était très important. Mais aussi, et là on va directement à Ligia, c'est parce que j'ai trouvé chez Ligia, dans son œuvre, dans la perspective qui orientait son œuvre, exactement ce qu'il a orienté, ce qu'elle essayait de répondre en le matérialisant à ses propositions artistiques, même à toute son œuvre depuis le début, c'était ce changement de notre mode d'existence, ce changement de comment est produite la subjectivité dans le système capitaliste, colonial, racial, tout ce qu'on veut, hétérosexuel, patriarcal, etc. Parce que la base, disons, l'opération centrale de la production de la subjectivité, du rapport à l'autre dans le capitalisme colonial, etc., c'est de nous séparer d'une expérience fondamentale pour nous guider dans nos actions, qui est l'expérience, la présence vivante de l'autre dans notre corps, ce qu'on peut appeler affect, qui est très différent de notre expérience comme un moi, non, qui se situe dans le monde à travers le répertoire socioculturel, non, le symbolique, ce qu'on appelle symbolique, dans lequel on vit, non, dans lequel on est formé. Et sans l'accès à cette autre dimension de l'expérience qui concerne cette présence vivante de l'autre dans notre corps, c'est-à-dire l'effet de notre corps des puissances vitales et des qualités de puissance vitale, c'est ce qui se passe dans ces domaines, dans l'écosystème social, ambiental, mental, etc., ce qu'on vit. Parce que c'est la friction entre ces deux expériences, c'est-à-dire je me situe de telle façon depuis ma formation dans ces répertoires socioculturels. Et en même temps, mon corps est habité par les effets de l'écosystème qui change mon état vital et qui n'a pas de mots, qui n'a pas d'image, qui n'a pas de geste, non, et qui n'a pas de langage. Ce qui déstabilise le langage dont je suis habituée, parce qu'elle a perdu son sens, parce qu'elle ne comporte pas ce qui arrive dans mon corps comme conséquence, non, de ce qui se passe dans notre écosystème social. Et c'est cette friction, elle est fondamentale, parce que c'est en déchiffrant ces changements de notre état vital par effet de l'écosystème de notre corps, qu'on peut orienter, que la pensée peut déchiffrer ça, que ça peut orienter nos actions pour répondre à ce qui nous arrive. L'œuvre de Lija, elle, depuis le début, cherche ça. Pourquoi, à un moment donné, très tôt, en 63, je crois, elle a commencé à faire d'autres... Elle a fait un vie dans ce qu'elle proposait jusque-là, et qu'elle a commencé d'autres propositions. Le premier, c'est Cheminant, et que ça, elle a fait plusieurs propositions jusqu'à la proposition finale qui s'appelle Structuration de Self, où elle travaillait directement avec les corps de ceux qui se proposaient à vivre son œuvre, sa proposition.
Oui. Pardon de vous interrompre. Je voulais placer, parce que les auditrices et auditeurs ne savent peut-être pas que, en fait, Lija Clark vous a demandé à écrire une thèse sur elle. Et comment, peut-être pourriez-vous un peu décrire comment ça s'est passé? Bon, après on va parler vraiment de la structuration du soi, du self. Mais voilà, comment vous avez travaillé ensemble sur cette thèse c'est fascinant, quoi. Oui. Comment ça s'est passé?
Bon, on a travaillé, parce que comme je voyais ça dans son œuvre, ça lui faisait du sens, on a travaillé en parlant beaucoup sur la thèse. Comme j'étais déjà au Brésil, j'ai fini la thèse au Brésil, non, j'ai commencé en France. Comme en 79, quand je suis rentrée au Brésil, et j'étais encore en France, pardon. Je suis rentrée en 79. En 78, je suis venue au Brésil, et spécifiquement pour parler avec elle sur ce que j'étais en train de travailler dans la thèse. Je n'ai vu personne au Brésil. J'étais dans un appartement qu'on m'a prêté. Je ne sortais pour rencontrer Lija, pour discuter les choses que j'étais en train d'élaborer, non? Et aussi, j'ai lu tous ces journaux cliniques, c'est-à-dire les journaux des notes qu'elle prenait de cette dernière œuvre, Structuration 7. Donc, c'était en échangeant des idées sur ça que j'ai écrit cette thèse. Mais à cette époque-là, j'étais encore trop prise par la formation psychanalytique plus traditionnelle, même si j'étais déjà très liée à cette à cette dislocation des concepts psychanalytiques pour pouvoir activer la puissance politique du travail avec la subjectivité. Mais cette thèse, je n'ai pas tellement aimé, je ne l'ai pas publiée parce qu'elle était encore trop psychanalytique. Bon, après, j'ai, comme tu sais, j'écris, comme probablement vous savez, j'écris 11 textes sur les genres. J'ai fait l'expo, l'archive dont on parlera après, mais où j'ai réussi chaque fois plus à amener au mot ce que, la puissance que je voyais dans cette œuvre. Quelle est la singularité de cette œuvre?
Oui, c'est, je comprends. Donc, c'est vraiment aussi une très longue phase de la vie de votre propre vie, mais aussi de Lygia, que vous avez en fait été compagne, pour ainsi dire, depuis les années. C'est presque 20 ans que vous êtes échangés et avez travaillé ponctuellement ensemble. Bon, après, Lygia nous a quittés, malheureusement, mais vous avez continué à travailler sur des aspects de son héritage. Et une chose qui est très remarquable, c'est qui est d'ailleurs toujours accessible au public aujourd'hui, c'est l'œuvre-événement, cette archive de l'œuvre-événement, avec une grande quantité d'interviews avec des gens connus et moins connus, précaires et moins et voilà, toutes sortes de personnes qui sont un peu miroir de notre société. Dans notre exposition à Zurich, on va aussi montrer 3 de ces entretiens avec à titre exemplaire avec Gaetano Veloso, avec Ivanilda Santos Leme. Et avec Yvan Labois. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est exactement cette archive? Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Comment vous avez procédé? Et où est-ce que ça fait 30 mois, j'ai trouvé la box DVD, mais comment vous êtes qu'est-ce qui est la motivation derrière cette grande archive de Lygia Clark? Que vous êtes l'éditrice.
J'ai remercié ta question votre question, et parce que ça dit beaucoup de ce que ça a été dans notre collaboration. Ce qui se passe, c'est quand Lygia, à partir de 1963, elle a quitté la peinture ou ces objets déjà qui sortaient du mur, ou après ce qu'on pourrait appeler des sculptures, mais c'est pas exactement ça, et qu'elle a fait cheminant. Et jusque-là, Lygia était la seule artiste brésilienne avec un grand succès international. Et au Brésil, elle était reconnue pour la force de son œuvre, sans doute, parce que tout ça était déjà là. Mais à partir du moment où elle a eu le courage de commencer ses propositions, elle était complètement oubliée. Et lorsqu'elle est arrivée lorsqu'elle est revenue au Brésil, en 1976, qu'elle a commencé la structuration de cette jusqu'à la fin de sa vie, en 88, là, alors, il disait que c'est soit dans les meilleures des hypothèses, on disait, elle est devenue thérapeute, elle a abandonné l'art, alors qu'elle n'a jamais abandonné l'art, elle s'est écrite. Et deuxièmement, dans les pires, il y avait des choses horribles, genre des psychanalystes disaient, elle faisait ça pour toucher les corps nus parce qu'elle était vieille et n'avait plus cette possibilité. Imagine les degré d'ignorance et de violence machiste et violence du système de l'art et de la psychanalyse, du système dominant dans la psychanalyse. Bon, enfin. Alors, ça déjà, ça me laissait très angoissée. Mais à 98, il y a eu une importante exposition au Queens Museum à New York où, pour la première fois, les États-Unis ont reconnu que l'art conceptuel n'était pas seulement un phénomène nord-américain, mais qu'il y a eu un art conceptuel en toute l'Amérique latine, très spécifique, très important. Et que donc, ils ont fait une grande expo pour montrer cette variété de choses qui ont été produites dans l'art conceptuel. À cette époque-là, je participais, je me dédiais entièrement à l'art, parce que c'était un moment où on commençait une résistance à l'instrumentalisation de la puissance de l'art par les capitalistes. Il y a un mouvement, une époque d'un mouvement collectif international fabuleux qui impliquait des directeurs de musées, des critiques, des artistes, etc., des commissaires. Et donc, je suis allée à cette expo. Lorsque j'ai vu la façon dont Lygia a été présentée, mais avec tout le respect que j'ai pour les commissaires, des gens fabuleux, et c'est une très bonne idée d'avoir d'avoir voulu inclure tout ce qui était produit en Amérique latine dans l'histoire de l'art conceptuel. OK. Mais quand je suis allée voir l'expo de Lijan, j'étais complètement angoissée. C'était le vernissage, la grande fête, les champagnes. Je suis partie très angoissée. En plus, il faisait froid, c'était l'hiver, et Queens tout était gris. Et j'ai décidé, ça ne peut pas rester comme ça. Parce que maintenant, qu'après tellement de temps, et que ça le fait tellement souffrir, on inclut Lijan dans les systèmes de l'art, comme une grande artiste, même si ce n'était pas grand, mais là, comme une grande artiste, on l'inclut en neutralisant complètement la puissance de son œuvre, qui est une puissance esthétique, éthique et politique, non? Artistique, éthique et politique. Bon, quand il y a une puissance artistique, elle est toujours aussi éthique et politique, de toute façon, parce qu'elle intervient dans le monde d'existence, en matérialisant quelque chose qui nous ouvre à une autre façon, à une autre manière. Bon, enfin. Pour aller vite. Et à ce moment-là, je pensais, qu'est-ce que je veux faire? Ça ne peut pas rester comme ça. Mon travail, toute ma vie, a été conduit par des situations qui me convoquent à produire quelque chose en réponse. Et à ce moment-là, c'est ce que j'ai inventé pour aller vite. J'allais faire un archive. Mais pas un archive dans le sens d'un ensemble d'objets et de textes. Un archive à travers lequel on pourrait activer la puissance de cette œuvre et que cette puissance pourrait mobiliser ceux qui s'intéressent pour cet archive. Alors, j'ai décidé d'interviewer des personnes et d'abord, la majorité des personnes qui avaient vécu cette expérience avec les gens de la structuration sociale, très important. Deuxièmement, des gens qui ont connu les gens, qu'est-ce qu'ils pourraient dire sur elle, sur sa façon de penser là, etc. Et aussi, un troisième point, des gens qui ont fait des recherches, qui avaient une résonance, surtout des gens dans la danse qui travaillent avec les corps, ou quelques-uns dans l'art, mais très peu, mais surtout des gens dans la danse, qui travaillent avec les corps et qui cherchaient quelque chose dans cette même direction, dans la danse contemporaine, comme Hubert Godin, cette personne. Et voilà. Et j'ai décidé de faire ces entretiens en France, elle a vécu, aux États-Unis, où elle est passée, et au Brésil. Bon. Et aussi, un autre détail, je crois que c'est important de dire, elle était mise à l'écart par l'art et par la psychanalyse. Ah oui, c'est thérapie, mais c'est de la merde. C'est rien. Bon. Mais les gens qui sont intéressés, qui ont voulu faire la structuration avec elle, c'était des gens de la culture, qui étaient aussi dans la contre-culture, chacun dans un domaine des arts, d'une façon très puissante, comme Caetano Veloso, qui a fait avec Gilberto Gil et d'autres, le mouvement tropicaliste, qui était dans la musique populaire, qui était très puissant et qui était dans la même recherche, c'est-à-dire la micropolitique, la puissance politique du mode d'existence. Hein, du monde d'existence. La contre-culture, comme vous savez, comme il y avait cette société en France un peu différemment, c'était l'expérimentation d'autres modes de vivre. Et ça, c'est une dimension politique très importante, comme j'ai dit avant. OK. Alors, dans ce cas-là, j'ai invité des gens que j'adorais, que je connaissais, parce que moi-même, mon activisme, et que j'étais un troll, c'était la contre-culture. C'était la guérillane et la macro-politique, la militance macro-politique. Bon. Et alors, Caetano Veloso, Susana de Moraes, et Wally Salomon, poète merveilleux, qui est mort très tôt, malheureusement. Beaucoup, beaucoup pour tout ce qu'il a souffert dans la dictature. Bon, ben ça, c'est une histoire, ce n'est pas notre point. Et à cette époque-là, c'était un moment, après la Deuxième Guerre, ça a commencé en Allemagne. L'Allemagne a beaucoup, beaucoup mis de financement et d'appui dans la culture, évidemment, après le nazisme, c'est là qu'il commence un documentaire et tout ça. Mais dans les années, un peu après, années 60-70, ça a commencé aussi en France et dans d'autres pays en Europe. Et en France, donc, le ministère de la Culture appuyait beaucoup, beaucoup l'art et les expérimentations plus radicales de l'art. Donc, j'ai eu la chance d'être là à ce moment-là et la chance que les gens qui étaient responsables pour les arts visuels au ministère de la Culture en France, comme Bernard Blisten, Jean-Marc Prévost et d'autres, ils ont adoré ce projet. Ils ont fait, je ne sais pas comment, ils ont réussi à avoir un financement complètement correct, complètement suffisant pour ces projets. Donc, ils ont payé tous les entretiens. Plus, Bernard Blisten allait offrait sa maison, il n'allait pas au ministère, il offrait sa maison, il nous faisait manger quand on devrait filmer dans sa maison parce qu'il y avait des Français qui n'étaient pas à Paris ou des Anglais qui sont venus à Paris. Fantastique. Et il a payé donc les tournages. On a invité Babette Mangold, c'est Chantal Ackerman qui me l'a présenté. Babette Mangold qui était la caméra de par exemple, de Jean Dillman, de Chantal Ackerman et d'autres. On a composé une équipe très professionnelle, mais ce n'est pas seulement professionnelle. C'est que Babette, par exemple, elle savait de quoi il s'agissait, qu'est-ce qu'il fallait activer là. Et donc, ça a été très bien fait, elle était hyper prof, tout était parfaitement bien fait. Et quand je suis arrivée au Brésil pour filmer les gens au Brésil, aux États-Unis también, ils ont payé aussi, incroyable. Ils m'ont payé aussi un mois de séjour au Frénois. Pour faire l'addition des films français. Incroyable. Bon, quand je suis arrivée au Brésil et qu'il fallait filmer au Brésil, évidemment, tu connais mon pays, il est merveilleux et aussi dégueulasse, j'ai trouvé aucun appui. Finalement, la Banque nationale, quelqu'un qui était là, qui est très sensible, qui a payé une partie, les CES, que c'est une institution très importante ici, mais je ne vais pas décrire ça maintenant, et la Cinémathèque de São Paulo, qui appartient au gouvernement fédéral, mais qui est à São Paulo. Mais ce qu'ils ont payé, c'était juste pour faire les coffrets. Parce qu'avec Aurine, on a décidé de faire un coffret avec ses entretiens en France, un coffret en français et un coffret brésilien. Ils ont payé les coffrets, et ça, c'était 20 entretiens que j'ai sélectionnés. Parce qu'en tout, j'ai filmé 65 entretiens. Et mon idée dans les entretiens, ce n'était pas... des anecdotes sur quand j'ai rencontré Lija, c'est pas quoi. Je voulais mobiliser la mémoire du corps, c'est-à-dire la mémoire des affects de ce que ce travail produit en eux. Comment ce travail, les effets de ce travail dans leur corps, qu'est-ce qui se passait là, non? Et pour ceux qui connaissent Lija aussi, parce que pour moi, cette archive n'était pas seulement pour Lija, pour qu'on puisse avoir présent la puissance de son œuvre, mais c'était aussi pour montrer les dimensions politiques de la contre-culture au Brésil. Des gens comme Caetano Veloso, qui n'avaient pas cette conception, qui, comme moi et comme tellement d'autres, étaient très, très, très fragilisés par tout ce qui nous est passé dans la dictature. Caetano était en Toulouse aussi, je le sais, et qui étaient très attaqués par la militance macropolitique, parce qu'à cette époque-là, ces choses-là ne se articulaient pas. Aujourd'hui, tout ça, ça circule merveilleusement, ça c'est surtout l'Amérique latine, tous les mouvements noirs, indigènes, LGBTQIA+, féministes, etc., écologistes, actuent dans ces deux domaines, ils savent très bien qu'actuer dans cette dimension de la réalité, c'est une partie fondamentale de la politique, comme la militance macro-politique. OK. Et donc, pour moi, c'était aussi pour activer la puissance de ce genre de mouvement.
Donc, pour un peu récapituler les fantastiques propos que vous nous avez présentés, la complexité aussi de cette archive, c'est que l'amplitude de l'archive est aussi un miroir de à quel point la Ligia avait une approche très holistique, on va dire, dans l'art et était très. Ben, elle avait quand même aussi un réseau international très grand. Et vous avez, avec cette archive, en ayant ces entretiens avec ces différentes personnes, réactualisé aussi l'importance de son et l'impact de son œuvre et l'actualité par des personnes qui, voilà, c'était pas une histoire écrite, c'était une histoire orale. Moi, je voulais encore vous poser la question pour clore aussi cette discussion temporairement, on va avoir Ligia va rester une grande et aussi votre travail d'ailleurs indépendamment de Ligia est très pertinent. Qu'est-ce que, à votre avis, fait vraiment l'actualité aujourd'hui de cette le fait que nous fassions une expo montre qu'il y a une grande actualité en Suisse. Voilà, elle est quand même pas tellement connue qu'au Brésil, mais on est certaine que ça va avoir un grand succès, une grande résonance. On travaille pas. Qu'est-ce qui, à votre avis, même dans des temps complètement quand même différents des années 60 ou 70, 80, qu'est-ce qui reste temporellement actuel qu'est-ce qu'est la subjectivité, voilà. Qu'est-ce qui, à votre avis, reste déjà présente dans notre esprit?
Oui. D'abord, je voulais dire une chose. Et pour moi, dans ma conception de d'un concept commissariel, je ne sais pas comment dire, le concept de la commission de l'Expo, pour moi, et là, c'est même chose que j'ai dit à propos de l'archive. Comment une expo peut activer, actualiser la puissance politique de cette œuvre. Et ça, déjà, c'est très compliqué. Très compliqué. Comme cette expo de Queens que j'ai décrit, je n'ai pas décrit comment ils l'ont exposée, parce qu'on ne perd pas du temps, mais j'ai vu plusieurs expos de Lija, très bien faites, des gens très sérieux, très responsables, mais cette puissance n'était pas là. Et en plus, on insiste que là, c'est la partie thérapeutique. Là. Quand on sépare l'effet thérapeutique de cette dernière proposition artistique, de son existence comme œuvre d'art, on perd ce qui, à mon avis, est essentiel dans l'art et qui est déjà arrivé à le résoudre d'une façon très puissante et très singulière, hein, qui est la puissance politique de l'art, dans le sens où je disais avant, c'est un artiste politisé, il connaît l'injustice. Pas ça, c'est pas de ça que je parle. C'est la micropolitique, c'est-à-dire la politique de mode subjectivation propre d'un système. Et que l'art, qui a été inventé comme une institution à part, une activité à part dans l'Occident au XVIIe siècle, ça n'existe dans d'autres situations, dans d'autres cultures comme art, ça fait partie de la vie quotidienne. L'art, c'était la seule activité humaine où c'était permis de produire, d'exister, d'agir à partir de cette connexion avec l'affect, avec l'effet du écosystème mental, social, mental dans ton corps. Non? Bon, et en général, les commissaires ne sont pas dans cette histoire. Ils sont dans d'autres, très importantes. Et la façon dont on amène, déjà, je ne sais pas comment ton expo, pour le peu de questions que tu m'as dit, j'imagine que ton expo, elle est arrivée à activer cette puissance. Bon, mais pour activer cette puissance, une des choses premières, basiques, c'est ne pas dire « Ah, maintenant elle est devenue thérapeute. Ben, » enfin, je respecte toutes les positions. Son actualité, non? Comme je disais, pour te répondre à d'autres questions, ce qu'on a fait dans la contre-culture, tout cet activisme micropolitique qui consistait à un courage qui n'était pas facile. C'était tellement difficile comme prendre des armes. Ce courage d'inventer un autre mode de vie complètement différent de la vie par laquelle on était formé, la vie bourgeoise, qui est propre de ce système. Ceux qui, à l'époque, commençaient comme un mouvement collectif, ça a existé beaucoup dans l'art avant, mais comme mouvement collectif, c'était les années 60-70, partout, de différentes manières, dans chaque pays. Tout ça, dans les deux deuxièmes décennies, c'est expandi, on dit, c'est raffiné, ça a augmenté, non seulement en nombre, mais raffinement des modes d'action. Surtout en Amérique latine, en ce moment, c'est très fort, je pense que c'est là que la pensée dans ces domaines va plus loin. Ce n'est pas parce que c'est plus ou moins, c'est que la situation a permis ça ici, dans notre endroit, dans notre contexte, c'est d'autres choses qui avancent. Non? Et ces mouvements sociaux qu'il y a depuis deux décennies, que je viens de citer, le mouvement noir, le mouvement indigène, les mouvements LGBTQIA+, ici, en Amérique latine, le féminisme en Amérique latine, les mouvements écologiques, etc., ou les mouvements, je n'appelle pas LGBTQIA+, j'appelle mouvement des dissidents de la notion qui est supposée universelle, la notion de genre, qui n'est pas universelle, qui est une invention de l'Occident, comme la notion de race. Non? Bon, bref, ces mouvements, ils vont très fort dans cette direction. Et ça, c'est présent dans l'art. C'est présent dans l'art partout, et c'est spécialement présent de différentes façons en Amérique latine, non? Dans l'art, tout ce que ces mouvements sont en train d'activer, d'amener, d'agir, d'actualiser, est très présent dans l'art, avec aussi d'autres problèmes qui se pointent à ce moment-là. C'est-à-dire, si d'un côté, cette introduction dans le système de l'art, elle permet une friction, il permet d'agir la puissance de l'art. De notre côté, évidemment, la présence des Noirs indigènes et LGBTQI au système de l'art, c'est devenu la nouvelle marchandise, la nouvelle, nouvelle façon d'accumuler capital, etc. Et tout ce que ça implique, on sait qu'est-ce que les collectionnismes, d'une part, c'est très important, mais on sait aussi tout ce qui s'implique. Et donc, on est dans cette bagarre, dans ces conflits. Il y a en Amérique latine spécialement parce que ces gens, ils étaient là, né? Les Africains esclavisés, les indigènes qui ont subi les génocides, etc. etc. Donc, en plus, je me suis écartée de l'art quand toute cette instrumentalisation de l'art a pris un vol beaucoup plus violent. Je me suis branchée et me dédiée complètement à ce qui est en train d'être élaboré, pensé et agi dans ce mouvement. Maintenant, justement, en ce moment, je reviens petit à petit, je me rapproche de l'art, exactement parce qu'on est devant ces conflits, qu'il faut agir, il faut organiser des choses pour penser collectivement, il faut, non? Maintenant, je ne me rappelle plus de ta question, mais je crois que je te l'ai répondu.
Non, la question, vous avez été complètement avec la méandre de vos pensées très fascinantes. C'est fascinant de vous entendre. C'est de voilà un peu comment il y a eu un certain cheminement de comment l'œuvre de Clark a été perçue. Ouais. Et probablement parce qu'on est aussi dans des temps actuellement où l'art reprend une force micropolitique beaucoup plus forte qu'elle ne l'avait peut-être ou était nécessaire dans les années 90, parce que voilà, c'était différent, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, ce qui me semble, c'est que d'autres artistes aussi voient que dans l'art, il y a des réseaux, des possibilités qu'on ne retrouve plus dans nulle part ailleurs. Voilà. Est-ce que je me suis exprimée correctement? Je ne sais pas.
Super, oui. Ce que je dis, c'est très intéressant, c'est très important, toi-même. Une chose que je n'ai pas dit et que bon, tu me fais penser aussi, c'est-à-dire, ce qui me fait revenir, ce n'est pas seulement le degré d'instrumentalisation, mais c'est présenter ces conflits dans l'art. Mais justement, et c'est ça que tu amènes, dans un moment où on est en train de vivre un changement de la modalité de pouvoir du capitalisme qui est technofasciste, non? Technofasciste. Et c'est gravissime. On ne peut pas comparer ce qui se passe avec l'appui de technologies de communication, avec, par exemple, Hitler qui parlait à tout le monde indifféremment, par le micro, dans la place publique ou dans la radio. Là, non, là, c'est la manipulation de la subjectivité. Elle va très spécifiquement par chaque groupe, etc., les algorithmes, tout ce... Bon, je ne veux pas parler plus, parce que nous tous, on est en train de penser à ça, donc ce n'est pas la peine. Donc, c'est vrai que c'est dans ces contextes qui revient. Parce que quand j'ai cette puissance micropolitique de l'art, parce que quand je me suis égarée, c'est quand tout ça a entré dans l'art d'une espèce de mélancolie, parce que le pouvoir du système de l'art sur l'instrumentalisation de la puissance de l'art était devenu tellement violent qu'il y a eu une espèce de mélancolisation généralisée. Et c'est à ce moment, toujours dans ma vie, je pars d'où je suis, je migre par là où je trouve des résonances collectives à ce qu'il faut travailler. Et c'est là que je migrais. Être lié beaucoup, 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 complètement avec les mouvements, surtout indigènes et noirs aussi LGBTQI+, mais plutôt noirs, et surtout noirs, qu'au Brésil est très, très fort en ce moment, comme les mouvements indigènes est très fort au Chili, comme le mouvement féministe en Argentine, ça change selon les pays. Mais tu m'aides, avec ce que ton commentaire, tu m'aides à comprendre que cette histoire est revenue non seulement par l'entrée de ces genres d'œuvres dans les systèmes, mais par le contexte, mais aussi par le contexte terrible qu'on est en train de vivre. Et tu as complètement raison. C'est ça qui m'amène, non à me rendre complètement, voilà, mais à commencer à m'approcher. Par exemple, j'ai le temps pour raconter un petit truc très rapide, sinon non. Ah, mais je voulais revenir à ta question. C'est dans ce sens que l'œuvre de Léja, à ce moment, redevient un instrument fabuleux pour tout ce qui se passe, non seulement dans l'art, mais spécialement parce que il y a l'art qui vont voir. C'est une proposition d'autres, peut-être, ne savent qui c'est les Jacques, peu importe, il y a d'autres, non? Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a les temps. Très rapidement, je peux raconter un peu. Bon, faites ta question, je ne vais pas prendre ton temps.
Je crains que Notre entretien a déjà une grande ampleur. Non. Il faut qu'on revienne à un terme, malheureusement, de l'entretien.
Oui.
Mais peu importe. C'est une continuation. Il va y avoir des nouveaux entretiens. Mais je pense que pour aujourd'hui, ça clôt très bien tous les aspects que vous avez abordés. Donne vraiment un feeling pour cette personne que vous avez connue. C'est aussi une chose que je voulais encore une fois ressouligner. Vous avez connu les Jacques l'Argentan. C'est essentiel. Nous ne pouvons malheureusement plus la vivre elle-même. Quand vous parlez, on la sent très proche de nous. Et moi, ce que je voulais encore additionner à ce que vous venez de développer, c'est que l'aspect physique aussi vraiment très fort et de rencontre. Nous sommes dans une période d'individualisation très forte des personnes et l'espace du musée devient un espace public de rencontre, mais aussi intime en même temps. Je trouve cette un peu ambivalence, mais aussi possibilité de choix. Me plaît beaucoup que c'est la force politique du musée et la force politique de l'artiste peuvent s'allier aujourd'hui. Voilà.
Oui, je peux commenter, te donner un commentaire.
C'est court. Ouais. Voilà.
Non, ça va être cool. Et oui, je voulais juste dire que l'individualisation, ça fait partie du mode subjectivation capitaliste, coloniale, etc. Et c'est ce que Freud appelait névrose. Mais Freud, c'est la seule chose qu'il n'a pas vue, et il ne fallait pas voir, il a vu tellement de choses, tellement fondamentales dans son travail. La seule chose qu'il n'a pas vue, c'est que la névrose n'était pas propre de l'espèce humaine, mais du capitalisme. Non, il n'y a pas de névrose dans notre culture, mais c'est le mode dominant de subjectivation capitaliste. C'est-à-dire, c'est ça qui fait que la psychanalyse peut devenir, ça n'a pas été dans son histoire, avec des belles exceptions, un instrument très intéressant comme l'art pour intervenir dans ces domaines, non, pour changer ces modes de subjectivation, non. Et vous avez raison que les musées, quand les directeurs de musée ou les commissaires sont liés à ça, il a une importance à ce moment. Comme la psychanalyse revient, il prend une importance dans cette direction-là. C'est pour ça aussi, vous allez comprendre mieux pourquoi je suis entre l'art, la psychanalyse et la philosophie. Parce que c'est philosophiquement, je me considère, pour me définir, me présenter comme un activiste de la pensée. Ce n'est pas exactement vrai, ce n'est pas exactement psychanalyse, parce que je fais, c'est autre chose. Activiste de la pensée, ça me va bien, parce que ça dit à peu près ce que je fais. Non, et voilà, et c'est pour ça que tout ça a une liaison. Et donc, revenant à Lija, pour qu'on finisse, c'est pas que madame est devenue thérapeute. Non! Madame a amené sa radicalité à l'extrême, où la proposition artistique elle-même a des effets cliniques. Pour l'amour des déesses, écoutons madame Jacques.
C'est un point essentiel. C'est le problème de penser en petits tiroirs et de vouloir catégoriser. Mmh. Et les catégories sont très biaisées, etc. Donc, Ligia et vous, comme complice.
Complice, c'est bien.
Complice. Non, moi, j'entends que vous avez vos propres propos, mais voilà, je pense que, pour clore ou synthétiser ce que... Mais c'est vous qui avez le dernier mot. C'est pas moi, mais je pense que cette la complicité entre ces forces de discipline qui remettent à l'avant la liberté de penser et la
exactement
de reconnaître de se ressentir soi-même dans une période aussi un peu on va dire il y a certains narcissismes étranges qui il y a plein de choses qu'on pourrait encore discuter, mais avec l'internet il y a toutes sortes de nouvelles choses qui apparaissent et c'est ça qui cette expérience de l'œuvre de Ligia la rend tellement actuelle. Je pense que c'est vraiment aussi comment les gens, dans un certain sens, sont aussi intéressés à penser plus sur eux-mêmes. Ils peuvent être prisonniers, mais en même temps, avec l'œuvre de Ligia, ils peuvent être libérés à penser plus sur eux-mêmes. Tu as le dernier mot en une phrase.
Et je veux dire que ça soit public, que la personne qui a baptisé cette dernière proposition, structuration du self, c'était moi. Je raconte ça pas par vanité narcissique. Au contraire, je trouve que c'est un très mauvais titre pour cette proposition. Et comme j'ai dit là au début, à l'époque, autant moi que les gens, on était plutôt encore différemment, non? Trop liés, dans mon cas, à l'apprentissage de la psychanalyse. Moi, je donnerais un autre nom, mais j'espère que d'autres gens pensent à notre nom. On va rester avec ce nom, parce que c'est le nom officiel. J'espère qu'à partir de ces initiatives d'Expo et de la mettre en circulation, qu'on invente un mot plus approprié.
On vous tient au courant. On va vous tenir au courant. Je pense que le public va contribuer à se rebaptiser cette structuration du self. Très chère Soueli, merci beaucoup pour cet entretien. Et voilà, très bonne continuation de votre travail. On reste en échange et étroitement liés. Merci beaucoup. Hold it in her hand. Mighty Edison. If you feel the weight, Mighty Edison. You'll never be late, Mighty Edison. To understand. Un podcast conçu par Catherine Hoog et produit par Kim Stengel. Avec une chanson dédiée à Ligia Clark par Caetano Veloso de 1971. Nous remercions les intervenantes ainsi que Christiane Klotz et Klaus Kovac et les directeurs des institutions respectives Anne Demeester pour le Kunsthaus Zurich et Klaus Biesenbach pour la Neue Nationalgalerie Berlin. Les droits d'auteur sont auprès du Kunsthaus de Zurich ainsi que des personnes interviewées. San Salvador, oh, mas eu não sou daqui. Eu não tenho amor. Eu sou da Bahia. De São Salvador. De São Salvador. Eu não vim aqui para ser feliz. Cadê meu sol dourado? E cadê as coisas do meu país?